Bonsoir à chacun et à chacune, et que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire quelques lectures dans la parole du Seigneur. La première dans le livre de la Genèse, au chapitre 7 et au verset 16. Avant que le déluge ne tombe, il s'est passé quelque chose. Genèse 7, verset 16. « Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. » Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le Seigneur Jésus dit ceci. Matthieu 24, verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, il y a une prophétie. Une prophétie qui est une des prophéties, pour moi, les plus sévères du Nouveau Testament. C'est ce qui arrivera. C'est exactement comme ça que les choses se passeront. Vous le croyez pas, vous êtes d'accord ou pas, c'est exactement ce qui va arriver. Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Amen. Amen. Enfin oui, amen au texte. On n'est pas trop d'accord avec ce que les gens vont vivre, mais on doit dire amen à la parole de Dieu parce que c'est Jésus qui est en train d'apporter une prophétie. Les gens, quand vous leur parlez de la Bible, ils diront « qu'est-ce que c'est la prophétie ? Qu'est-ce que c'est les commandements ? C'est quoi les promesses ?» C'est important que vous sachiez ce qu'est une prophétie. Une prophétie, c'est ce qui va arriver. Jésus est catégorique. C'est comme ça que ça se passera quand le maître de la maison se lèvera et fermera la porte du royaume de Dieu. Les contemporains de Noé ont eu combien de temps pour réfléchir? Combien de temps a pris la construction de l'arche? Combien? Plusieurs jours, oui, c'est sûr. Combien? 100 ans. Pendant 100 ans, ils ont entendu les coups de clous, de marteau, 100 ans pour construire l'arche. La Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. La construction de l'arche était une prédication de 100 ans. Pendant 100 ans, chaque coup de marteau rappelait l'amour de Dieu qui voulait sauver les hommes et en même temps la sévérité de Dieu qui montrait que le jugement allait venir. Mais les gens devaient dire, mais le Dieu qui envoie un déluge, mais vous plaisantez. Dieu est un Dieu d'amour. Vous rêvez, Noé, monsieur le pasteur, vous rêvez que Dieu envoie un déluge sur la terre, mais vous n'y pensez pas. Nous, on le connaît, le Seigneur, et il est plein d'amour et de bonté. Surtout que du temps de Noé, les gens priaient. Est-ce que quelqu'un, je crois que c'est dans Genèse au chapitre 5, c'est bien de le lire. Parce que les gens, ils avaient une religion. Ils avaient une religion. Regardez, c'est écrit. C'est pas écrit pour rien. C'est écrit à bon escient. Vous savez que tout est écrit pour nous instruire. Genèse chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça voulait dire que les gens priaient, qu'il y avait une religion. du temps de Noé, et avant Noé, il y avait de la religion. À quoi leur a-t-elle servi cette religion? À quoi ça leur a servi d'invoquer le Seigneur? À rien. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer dans la prophétie, c'est que beaucoup diront, mais Seigneur, Seigneur, tu te rends compte, on a mangé avec toi. Sérieusement, est-ce que si vous aviez vécu du temps de Jésus, est-ce que pour vous ça aurait été un honneur de prendre un repas avec le Seigneur? Est-ce que franchement, ce n'était pas une grâce sur la terre d'avoir invité le Seigneur Jésus dans sa maison? Sérieusement, quand on aime Dieu, on pense que ça doit être un des plus grands privilèges sur la terre d'avoir invité Jésus-Christ à manger dans sa maison. D'autant plus que le repas, c'est synonyme de communion. Je ne sais pas si ça vous arrive de manger avec des amis, de manger avec eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'inviter des amis de manger avec eux? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ce n'est pas le symbole même de la communion? Hein? On a besoin de se retrouver et de partager certaines choses. Donc, c'est ces gens qui se gargarisaient d'avoir invité le Seigneur Jésus à manger à leur table, représentent quand même ceux qui s'imaginent que parce qu'ils ont une certaine apparence de la piété, ils sont prêts à rencontrer le Seigneur. C'est une affaire beaucoup plus sérieuse. Vous savez qu'il n'y a que Jésus qui utilise l'expression « les pleurs et les grincements de dents ». Je suis persuadé que si on faisait une enquête dans la rue, et qu'on dise, voilà, quel est l'homme de Dieu dans la Bible qui a utilisé l'expression « les pleurs et les grincements de dents ». Si on mettait Jean-Baptiste, l'apôtre Paul, Jérémie, Ézéchiel, Jésus, je suis sûr qu'il n'y a personne qui mettrait Jésus. On mettrait Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, les prophètes, vous savez, qui ont été quand même un petit peu sévères. Jean-Baptiste, oui, il a traité les pharisiens de race de vipères, oui, ça doit être lui. Allez, c'est lui. Non, le seul qui a utilisé l'expression « les pleurs et les grincements de dents », c'est le Seigneur Jésus. C'est une parole très sévère. C'est peut-être la parole qui m'a permis de comprendre la sévérité du Seigneur. Moi, quand j'ai lu l'Évangile, pour la première fois, je pense que tous, lorsque vous avez lu les Évangiles, vous avez certainement eu un temps d'arrêt lorsque vous avez lu ce verset pour la première fois. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette prophétie ? Cette prophétie, elle dit qu'un jour, la porte sera fermée. La prédication de Noé, je vous dis, ça a duré une centaine d'années. Les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Qu'est-ce qui se passe depuis 2000 ans? Depuis 2000 ans, Jésus dit qu'il va revenir. Oui ou non? Il va revenir. Vous le croyez-vous? Vous avez vu tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu? Vous regardez de temps en temps les informations? Et tout ce qu'on ne sait pas. Je peux vous dire que si on savait tout, je pense que ça serait profondément inquiétant. Quand vous verrez ces choses, redressez votre tête, votre délivrance approche. Quand vous verrez ces choses, vous l'avez lu avec moi, le maître est à la porte. Et cette porte, un jour, elle va se fermer. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça dépend pour qui. Pour les chrétiens, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, la Bible parle d'espérance bénie. Que les chrétiens, ils ont une espérance bénie. Ça change des pleurs et des grincements de dents. Les chrétiens, ils savent qu'ils seront sauvés de la colère. La Bible parle souvent de la colère. Ça sera le sujet de la prédication de dimanche matin, la colère de Dieu. L'expliquer d'une façon intelligente pour que les gens comprennent que ce que nous voyons ne sont que les prémices de la colère. Ce n'est rien à côté de ce qui arrivera une fois que l'Église, le corps de Christ, sera enlevé de la terre. Il y aura un déversement de misère, de malheur. Vous avez lu l'Apocalypse? Vous avez compris l'Apocalypse? Vous n'avez peut-être pas tout compris, mais il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'une fois que la colère de Dieu va venir sur la terre, ça va être quelque chose de terrible. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, beaucoup, Jésus utilise ce qualificatif, beaucoup, si vous cherchez dans un dictionnaire, ça veut dire une très grande quantité. Voilà, ce n'est pas écrit 7 ou 8, ou 15 ou 16, il est dit, beaucoup de gens chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dans quelle catégorie de gens allez-vous vous retrouver? Ferez-vous partie de ces personnes qui seront rentrées dans le royaume? Alors, est-ce que ça veut dire, comme quelqu'un me dit, mais ça veut dire qu'il faudrait être toujours dans une église? Mais non. Quand Jésus parle de l'enlèvement, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, de deux dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise, l'autre laissée. Il n'est pas dit de deux personnes qui seront à l'église, de deux personnes en train de lire la Bible. Le Seigneur est en train de parler des gens qui sont en pleine activité. Mais ce sont des gens qui étaient prêts. Le problème, ce n'est pas d'être à l'église ou d'être dans l'activité, de dormir, de se détendre, de travailler, de faire quoi que ce soit. Le problème, il n'est pas lié au travail. Le problème, il est lié au cœur. Le Seigneur regarde au cœur. Et vous devez savoir si vous êtes prêts. Sur les 10 vierges, il nous est dit que celles qui étaient prêtes, elles entrèrent. Donc, celles qui n'étaient pas prêtes, bien sûr, ne sont pas rentrées. Elles aussi, elles ont tapé. Ouvre-nous, ouvre-nous, je ne vous connais pas. Alors, dans ce beaucoup, puisqu'on a lu ce texte, vous y êtes, hein? Beaucoup, hein? Vous l'avez toujours la Bible ouverte? Dans Luc 13, verset 24. Beaucoup chercheront à entrer. Alors, qui c'est qu'il y a dans ces beaucoup? Quelles sont les personnes qui font partie de ce beaucoup? Le maître de la maison. Le maître de la maison, vous savez, quand on était petit, on respectait le maître à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non? Vous respectiez le maître à l'école? Moi, je sais que je prenais beaucoup de corrections à l'école. À l'époque, ils avaient le droit. Hein? Mais je sais que je me serais gardé de rentrer à la maison et de dire à mon père, le maître m'a mis une baffe. Parce que je sais très bien que j'aurais eu le deuxième voyage à la maison. Et je pense que pour plusieurs, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se serait passé souvent. Mais là, le maître de la maison, c'est pas le pasteur de l'église, c'est pas le préfet du département, c'est pas le président de la République. Le maître de la maison, c'est Dieu, qui sait très bien le jour, l'heure, le mois, l'année où il doit fermer la porte. Alors il y a une mauvaise nouvelle, oui, il y a une très mauvaise nouvelle, c'est que la porte va se fermer. Et il y a une très bonne nouvelle, c'est que la porte, elle est encore ouverte et qu'on peut prêcher, l'évangile de la grâce. Ce soir, est-ce qu'on peut dire que la porte est ouverte? Oui, donc la porte, elle est encore ouverte. Mais pour vous dire comment l'homme est compliqué, je trouve qu'il est même très, beaucoup compliqué, l'homme. La porte est ouverte. Ils ne veulent pas rentrer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand la porte sera fermée, ils vont vouloir rentrer. Moi, je ne sais pas si c'est les Français qui sont comme ça, mais je crois que le cœur de l'homme est quand même profondément compliqué. La porte est ouverte, on dit aux gens, mais venez, venez, moi aussi je peux. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. À qui s'est adressé l'évangile? Je me suis souvent posé la question quand Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Combien était-il? Était-il 80? Était-il 2000? Dans ces milliers de gens, il devait y avoir toutes sortes de gens. Vous ne croyez pas? Il devait y avoir des gens bien. Hein? Des gens bien comme Jérémie. Des gens vraiment bien, je veux dire. Hein? Il devait y avoir des gens formidables, des gens qui aimaient Dieu. Il y avait peut-être des voleurs, des menteurs, des blasphémateurs, des adultères, je ne sais rien. Est-ce qu'il pouvait y avoir toutes sortes de gens? Oui. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Ce n'est pas une bénédiction, ça. Ce soir, je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez, mais l'invitation, elle est pour tout le monde. Quel bonheur. Le Seigneur, il a répondu, venez à moi, vous tous. Ah, sauf les pharisiens, au fond, là-bas, qui m'épillaient. Vous qui allez me pousser à la crucifixion. Non, pas pour vous. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui étaient contre lui, qui épillaient Jésus dans un coin, tout le temps en train de le regarder. On le voit quand on lit les évangiles, combien cherchaient Jésus pour essayer de le contredire. Eh bien, voyez, il a dit, venez à moi, vous tous. Après la crucifixion, combien de sacrificateurs, d'ailleurs, se sont convertis, puisqu'il est dit qu'une foule de sacrificateurs obéissait à la loi. C'est bien la preuve que la porte était ouverte pour tous les autres. Alors, combien sont entrés dans le royaume? Qui sait qu'il y a dans ceux, beaucoup? Moi, je pense qu'il y en a qui sont rentrés dans le royaume. Est-ce que vous en connaissez des gens qui sont rentrés dans le royaume et qui sont ressortis du royaume? Est-ce que vous en connaissez? Vous n'en connaissez pas ce qu'on appelle les fils prodigues? Est-ce qu'il y en a des fils prodigues? Il y en a combien à Toulouse de fils prodigues? J'ai toujours dit que s'il fallait construire une église pour accueillir tous les fils prodigues dimanche, il faudrait une pièce de 2 000 ou 3 000 places. le nombre de gens qui sont entrés dans le royaume et qui, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas le temps d'évoquer cela ce soir, mais sont ressortis. Parce que Jésus ne force personne. Parce que Jésus ne forcera jamais. D'ailleurs, vous avez vu, au verset 24, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Efforcez-vous ». Il aurait pu dire « Voilà, c'est tellement difficile, ça sera tellement difficile que je vais vous forcer ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été forcé dans la Bible ? Moi, il y en a un qui a quand même été encouragé à sortir, c'est Lot. Il ne savait pas que le jugement allait venir. Quand vous voyez l'histoire de Lot, c'est une affaire impressionnante. Abraham était au courant, parce qu'Abraham représente ceux qui sont l'ami du Seigneur. Il savait que le déluge de feu allait tomber sur Sodome et sur Gomorre. Et quand Abraham apprend que le déluge de feu va tomber, eh bien, il supplie Dieu. Il connaît Dieu, il dira, mais Seigneur, si dans une ville il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville pour 50 justes? Et Dieu dit, non, bon, mais si il y en a 50, je ne la détruis pas. Oh, j'ai parlé trop vite, moi qui ne suis que poussière et cendre, Seigneur, je sais que tu comprendras dans ta miséricorde. Bon, mais s'il y en a que 45, ok, s'il y a 45, je ne juge pas la ville. Et il a eu l'audace de la foi, de continuer, de persévérer. Bon, ce sont des prières qui peuvent être faites par les amis du Seigneur. Je pense que ce n'est pas n'importe qui puisse autoriser à des prières pareilles. Mais franchement, il va aller jusqu'à 10 personnes. Et en fin de compte, il n'y avait même pas 10 personnes. Et Dieu, dans sa bonté, va envoyer des anges pour sortir Lot et sa famille de Sodome. Cet homme, il tenait pas beaucoup debout, franchement, spirituellement. Et pourtant, Dieu l'a sauvé. Ça nous encourage quand même à prier pour tous ceux qui ne sont pas prêts. Parce que s'il n'y avait pas eu les prières de tonton, Abraham, je peux vous dire qu'ils seraient tous morts. Et mes frères et sœurs, ne désespérez pas. Vous avez peut-être dans votre famille des lots qui ne sont pas au courant de ce qui va arriver. Combien de chrétiens sont conscients que les choses vont de plus en plus mal ? Est-ce que vous croyez que tous les chrétiens sont au courant que Jésus va bientôt revenir nous chercher ? Moi, je ne sais pas si les gens ils y pensent. En tous les cas, dans le beaucoup, il y a tous ceux qui sont entrés. Vous savez, Dieu respecte les anges, les démons. Quand même, quand on réfléchit, Lucifer, le diable, c'était qui Lucifer au début ? Est-ce que c'est Dieu qui a créé quelqu'un de mauvais ? Est-ce que vous imaginez Dieu en train de créer quelqu'un de mauvais ? Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Non, ce n'est pas possible. C'était un ange de lumière, il dirigeait apparemment la musique dans les cieux. C'était quelqu'un, c'était vraiment le plus beau des anges. Eh bien, il s'est rebellé contre Dieu. Et il y en a les un tiers des anges qui ont suivi, parce que, eh bien, c'est comme ça, Dieu les a laissés libres. Ils ont choisi. Toutes les créatures, créées ou procréées comme nous, auront la liberté de choisir. Et Dieu ne forcera personne. D'ailleurs, dans cette prophétie, je vous dis qui, pour moi, est une des prophéties les plus terribles, le Seigneur ne dit pas « je vais vous forcer, je vais vous obliger, parce que je vous aime », non, « efforcez-vous ». Et je crois que même la prédication doit s'arrêter à ce respect. On doit prêcher, on doit enseigner, on doit le dire. La Bible, Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Mais est-ce qu'on a le droit de forcer quelqu'un ? Non. On n'a pas le droit, le Seigneur Jésus dit, efforcez-vous. C'est chacun d'entre nous qui choisissons d'accepter ou de refuser la parole de Dieu. Tous ceux qui sont entrés et qui sont ressortis, combien il doit y en avoir à Toulouse ? Je sais que ça fait partie de mes prières de chaque jour, de demander à Dieu que les fils prodigues reviennent dans la maison du Seigneur. Et vous pouvez le faire. Abraham l'a fait et il a été exaucé. Même si ça s'est passé de manière pénible, quand même les anges ont dû le prendre par la main et le sortir. Que Dieu fasse que beaucoup de nos amis soit pris par la main hein, pour sortir de la colère de Dieu qui va venir sur la terre. Oui, la Bible parle de ceux qui... On peut le lire quand même, parce que c'est quand même un verset qui fait réfléchir. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, Dieu parle de ceux qui se sont retirés des souillures du monde et qui s'y engagent de nouveau. Comme quoi, voyons, on est libre. Ça fait drôle, ça. Hein. Alors, on n'a pas jugé, certainement pas. Mais regardez, 2 Pierre chapitre 2, verset 20. Je ne sais pas quand vous vous êtes engagé, quand vous avez pris le baptême, pourquoi vous avez pris le baptême, pourquoi vous vous êtes engagé. Mais regardez ce que l'apôtre dit. « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Voyez, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais voyez, ils sont entrés dans le royaume de Dieu, ils ont voulu ressortir du royaume de Dieu, et bien Dieu les a laissés libres. Si dans l'arche, avant que le déluge tombe, un des fils de Noé avait dit « Mais moi ça ne me plaît pas ce bateau, j'en sors », est-ce que Dieu l'aurait laissé sortir? Ben oui, moi je crois que Dieu, il laisse les gens libres. On le voit dans ce texte, ça fait mal au cœur, mais en même temps, Dieu n'oblige personne. Il n'y a que dans une secte où on peut obliger les gens à rester. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un. Quand un jour, des disciples ont dit à Jésus, mais cette parole est trop dire, qui peut l'écouter? Et ils se sont retirés. Et puis Jésus s'est tourné vers les 12. Et vous, vous ne voulez pas les suivre? Ils ont dit, regardez, Dieu ne force pas. Je crois que la communion avec Dieu, c'est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation forcée. Je ne crois pas qu'on puisse suivre Dieu si on ne l'aime pas de tout son cœur. En tous les cas, ce texte, je ne vais pas le prendre le temps de l'expliquer, mais je peux vous dire que ça révèle quelqu'un qui ne sait pas où il en est spirituellement. Quelqu'un qui a connu la grâce de Dieu et qui s'en détourne. Vous ne trouvez pas ça dommage? Sérieusement, avoir connu la grâce, la lumière, la paix, le pardon, la joie, le salut et s'en détourner. On a du mal à croire comment quelqu'un qui est sorti des ténèbres puisse se trouver dans la lumière et avoir envie tout à nouveau de se retrouver dans les ténèbres. Que c'est terrible. En tous les cas, il y a beaucoup de gens qui sont entrés. Ils sont entrés peut-être pour la bénédiction. Est-ce que c'est bien la bénédiction du Seigneur? Est-ce que vous aimeriez être béni encore? Est-ce que vous aimeriez? Dans quel domaine? Allez, dites-moi, entre nous, on n'est pas nombreux là le jeudi soir. Dans quel domaine? C'est bien. Est-ce que Dieu peut bénir un homme dans tous les domaines? Est-ce que c'est écrit que Dieu peut vous bénir en toutes choses? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est important même d'avoir cette assurance que Dieu bénira un homme fidèle et... La suite, Jérémie. Et un homme fidèle et comblé de bénédictions. Est-ce que c'est écrit que si vous cherchez le royaume de Dieu, toute chose vous sera donnée par-dessus? C'est écrit? Oui, c'est écrit. C'est incroyable. La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Est-ce que c'est bien de jouir de tout ce que Dieu nous donne? Est-ce que c'est bien? Oui, mais c'est pas ça, marcher avec Dieu. Ça fait partie des grâces. Mais il ne faut pas aimer la bénédiction. Il faut aimer celui qui bénit. C'est comme cette jeune fille un jour je ne sais pas si c'est vrai, je l'ai lu dans un bouquin, on l'a lu dans les livres de Billy Graham, je crois. Elle est rentrée dans une bijouterie, tout ça. Elle a commencé à travailler dans la bijouterie. Et puis au bout d'un moment, comme elle était très appréciée de la bijoutière, la bijoutière dit, voilà, écoute, tu choisis le bijou que tu veux dans la bijouterie. Nous te l'offrons pour sceller notre CDI. Vous voyez? Et la fille, elle a réfléchi. Et au bout d'un moment, elle lui dit, c'est votre fils que je veux. Elle n'était pas bête, hein? Parce que là, elle n'avait pas un bijou, là. Elle les avait tous. Mais je crois que c'est une histoire vraie. Elle était tombée amoureuse du fils et elle a dit, c'est votre fils que je veux. Eh bien, ça explique bien. Il ne faut pas fixer les yeux sur la bénédiction, il faut fixer les yeux sur le Dieu qui bénit. C'est peut-être le meilleur moyen de rester attaché à Dieu jusqu'à la fin. Béni soit Dieu pour les bénédictions. Merci Seigneur. On va rentrer tout à l'heure dans son appartement, chauffé, de l'eau fraîche dans le réfrigérateur. Vous avez un lit. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Est-ce que c'est bien? Vous savez qu'il y a des millions de gens sur la terre qui essaient de survivre. Il y a des gens qui vont mourir cette nuit de froid, de faim, de soif. Et ne considérons pas les bénédictions comme quelque chose de dû. C'est une grâce. Et pourquoi beaucoup de gens sont ressortis, ils étaient rentrés et puis sont ressortis, et ils feront partie de ces beaucoup qui vont pleurer et qui vont grincer des dents parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Quand est-ce qu'un homme est dehors? Mais quand il ne prend pas au sérieux le péché. Le péché, oh, le péché, il ne faut pas parler du péché, c'est négatif. Quand on prend à la légère le péché, moi je vous dis qu'on n'est pas prêt. Je connais suffisamment la Bible pour avoir compris, et les gens, à force, pour avoir compris que quand on ne prend pas au sérieux le péché, on n'est pas prêt. Quand on pêche volontairement et qu'on dit « bon, c'est pas grave, le sang de Jésus nous purifie de tout péché », c'est pas ça qui est dit dans la Bible. Il est dit que si nous marchons avec Dieu, si nous marchons vraiment avec Dieu, bien sûr que cette communion avec Dieu fait que si on pêche involontairement. Vous comprenez, je veux dire. Mais le péché volontaire dans la Bible, moi je peux vous dire que les gens qui pêchent volontairement ne sont pas prêts. On va le vérifier dans Hébreux chapitre 10. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a le péché volontaire et le péché involontaire. Est-ce que ça peut arriver à un chrétien de commettre un péché? Oui, on commet des péchés. Et la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur, dont il en commet deux. Mais ce que je veux dire est que nous avons un avocat qui nous pardonne. Mais il faut bien faire la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire. Le péché involontaire, Dieu le pardonne. Et c'est là que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais regardez la sévérité avec laquelle Dieu nous parle sur ceux qui commettent le péché d'une manière volontaire. Et croyez-moi, aujourd'hui dans les églises, on en a des gens qui disent « Oh, mais le péché, c'est pas rien, c'est pas grave. » Mais regardez, le péché volontaire. Car, verset 26, si nous péchons, comment c'est écrit dans votre Bible? Qu'est-ce que vous avez écrit? Si nous péchons volontairement, donc on sait ce qu'on fait, hein, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Voyez qu'on est loin de... C'est pas grave. Il est dit qu'on a tenu pour profane le sang de l'Alliance, qu'on a outragé l'Esprit de la grâce quand on pêche volontairement. C'est la preuve que quand on pêche volontairement, on n'est pas prêt. Oui, moi je crois que Dieu pardonne. Et que Dieu pardonne tout, je le crois. Et que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais je crois qu'il faut faire la différence entre quand même le péché volontaire et le péché involontaire. Voilà, tout est permis, Dieu nous a franchis, Dieu nous a donné la liberté, je fais ce que je veux, Dieu passe sur tout, et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui dans les églises on appelle Dieu papa, ce qui m'irrite au plus haut point. Je crois que Dieu, c'est notre Père, c'est déjà merveilleux qu'on puisse l'appeler notre Père, mais le fait de l'appeler papa, ça fait le gentil grand-père qui passe sur tout, vous savez, voilà, comme les grands-pères, vous savez, on passe sur tout les grands-pères, voilà, c'est pas grave. Je crois que Dieu ne passe pas sur tout. Et beaucoup de gens, beaucoup c'est écrit, c'est pas moi qui parle, c'est Jésus, parce que les gens ont pris le péché à la légère. Ne prenez pas le péché à la légère. Beaucoup de gens, c'est beaucoup de gens, ce sont tous les gens qui s'imaginent que croire en Dieu, ça suffit. Il y a des gens, voilà, on dit, ah, c'est un chrétien, ah, il fait le signe de croix, oh, ça, oh ce footballeur, ah, il se signe avant de rentrer sur le football, oh, ça doit être un chrétien. Écoutez, est-ce que parce qu'on se signe, est-ce que parce que justement, Jésus l'a dit, tu as enseigné dans nos rues, j'étais au bénéfice de ton enseignement, je fréquentais telle église, c'est ça, tu as enseigné dans nos rues, je fréquentais telle église évangélique, est-ce que c'est ça qui fait qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur? Bien sûr que non, on est prêt à rencontrer le Seigneur quand on fait ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Repentez-vous, convertissez-vous, sanctifiez-vous. C'est beaucoup, ce sont tous les gens qui croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas Dieu. En enfer, il n'y a que des gens qui croient en Dieu, croyez-moi. Ils doivent y croire très sérieusement. Mais laissez-moi vous dire qu'ils n'ont pas cru Dieu. S'ils avaient cru Dieu, ils auraient pris au sérieux la parole du Seigneur. Du mauvais côté de la porte, il y a tous les lâches, les lâches. La Bible parle des lâches. Je vous ai raconté ce gars un jour qui m'a téléphoné et qui m'appelait, il me réveillait je ne sais pas combien de fois par mois. Et un jour, il a eu l'intelligence de me dire « Ah, monsieur Gault, qu'est-ce que vous pensez de moi ?» J'ai dit « Vous me demandez, je dis, vous ne devriez pas me demander ça. » Il me dit « Si, je veux savoir. » Eh bien, j'ai dit « Vous êtes un lâche. » Et c'est la vérité, parce que la Bible parle des lâches dans l'Apocalypse, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à se décider. Il dit, oui, ça fait des années que vous... Il me réveillait en plus. Et mais, tout me réveillait, il était saoul, il ne savait pas que l'heure du jour ou de la nuit c'était. Et moi, j'ai dit, oui, vous n'arrivez pas à vous positionner pour Dieu. Mais je crois en Dieu. J'ai dit, oui, vous croyez en Dieu. Mais il faut vous positionner. Regardez dans l'Apocalypse, on va terminer avec cette pensée. La Bible parle... On ne naît pas lâche, on ne naît pas incrédule, on ne naît pas athée, on ne naît pas meurtrier, débauché, abominable. On choisit de l'être. C'est un choix que l'on fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui naissent athées? Est-ce qu'il y a des gens qui naissent chrétiens? Non. On fait un choix. Et c'est très bien expliqué dans l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 8. Mais pour les lâches, voilà, vous regarderez ce soir dans un dictionnaire et vous verrez. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, donc voilà ceux qui vivent volontairement dans le mensonge, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre. Voilà, ils sont inconscients, c'est de l'inconscience, c'est un aveuglement. C'est pour ça que Jésus utilise des paraboles, des prophéties aussi sérieuses. Alors la seule solution, elle est entre vos mains. La porte est ouverte, alors par contre ça c'est la bonne nouvelle, la porte est ouverte, efforcez-vous. Dieu n'est pas là, il ne vous forcera pas. Les temps sont courts, la porte va se fermer, on l'a lu, quand vous verrez ces choses, le juge est à la porte. Mais il ne va pas vous obliger. N'attendez pas. Ne dites pas comme des fois les gens, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Moi, quand j'entends quelqu'un prier comme ça, j'attends la fin de la réunion et je vais dire, écoutez, je vous assure, ça ne marchera pas. Dieu ne forcera personne. Vous devez dire, Seigneur, je te le donne, je te donne mon cœur. Je choisis de me repentir, je veux être du bon côté de la porte, quand tu vas la fermer. Croyez-moi, et ce jour, il arrive, alors vous le croyez pas, moi je vous dis que la porte est ouverte et que ça vaut la peine que vous y réfléchissiez sérieusement. On ferme les yeux quelques instants. Et Jésus a dit, je suis la porte. Vous connaissez ce texte où Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Oui, Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix pour que la porte soit ouverte. Quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Ça permettait aux hommes d'entrer d'eux-mêmes, par la foi, dans le royaume de Dieu. On prie quelques instants. C'est important. Je ne sais pas où vous en êtes. De quel côté de la porte êtes-vous? Que vous soyez évangélique, pentecôtiste, catholique, ça ne veut rien dire. Vous avez vu ces hommes? On a mangé avec toi. On a bu avec toi. Tu as enseigné. Eh bien oui, je ne vous connais pas. Parce qu'il n'y avait aucune communion. Il les connaissait, il aurait pu dire tu t'appelles Jacques, tu t'appelles Paul. Mais Dieu ne connaît les gens spirituellement qui sont en communion avec lui. Alors je vais faire un appel bien sûr. Je vais demander à celui qui veut dire moi je veux Seigneur, entrer. Je veux t'obéir. Vous êtes libre, je vous le dis. Moi je n'ai même pas à vous forcer. Je peux vous dire que Dieu vous le demande. Mais c'est à vous de dire, oui, Jésus, je veux entrer. Et vous verrez dimanche qu'avec ce qu'on va voir sur la colère de Dieu, vous allez comprendre qu'on y est en plein dedans. En plein dedans. Que le signe le plus alarmant et le plus révélateur, c'est l'apostasie. Il faut qu'il y ait l'apostasie. Et vous savez que dans presque toutes les églises, l'abandon de la foi y est déjà. On ne prêche plus ces choses parce qu'on dit qu'on est négatif quand on prêche ces choses. Je ne pense pas être négatif, je ne cherche pas à être ni négatif ni positif, je cherche à être le plus réaliste possible. Et l'apostasie est entrée dans les églises et c'est vraiment le signe flagrant de l'enlèvement de l'église. Alors ce soir, quelle bonne nouvelle, quelle merveilleuse bonne nouvelle, la porte est ouverte. Qui veut dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux porter la croix. Je veux renoncer, c'est-à-dire à ma propre volonté, pour faire la tienne. Il y a des ados dans l'église. Avez-vous passé le cap? Êtes-vous du bon côté de la porte? Ou êtes-vous à l'extérieur de l'arche? Cette porte, elle se fermera. Que Dieu fasse que tous ceux qui écouteront cette prédication puissent réfléchir. Ceux qui l'écouteront sur le site, ceux qui l'écouteront par le biais de l'enregistrement, réfléchissez à ces choses. Ce sont des choses solennelles. Vous êtes d'accord ou pas, ça n'a aucune importance. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Y a-t-il quelqu'un qui veut ce soir dire « Seigneur, aide-moi. Aide-moi, prends-moi par la main, Seigneur. Aide-moi à m'avancer. » Je vous demande tout simplement, on reste recueilli, de vous lever à votre place. S'il y a quelqu'un qui dit « je veux entrer dans le royaume. » Levez-vous, je prierai pour vous, tout simplement. C'est peut-être un rétrograde qui est là, qui dit « moi, je veux re-rentrer dans le royaume. Je suis rentré, je suis sorti, j'ai fait ce va-et-vient, je veux entrer, je veux être du bon côté. » Seigneur notre Père, nous sommes sous ton regard, Seigneur. Tu vois nos vies, tu vois nos cœurs, Seigneur. Nous sommes devant ta face et nous te prions de nous garder. Tu nous as laissé ta parole pour nous aider, pour nous garder, pour nous bénir. Et nous te prions, Seigneur, pour que ta volonté soit faite dans chacun de ceux qui sont là ce soir. Tu es ce Dieu qui nous a donné le libre arbitre et nous t'en remercions, Seigneur. Mais nous te prions pour que tous dans cette église, tous autour de nous, soient prêts pour le jour où tu reviendras nous chercher. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.